Passe-moi le relais. Comprendre et anticiper les transformations culturelles en Europe. Un podcast produit par Relais Culture Europe. Les 2 et 3 décembre derniers, le Forum Europe Créative 2025 s'est tenu à Paris. Deux jours de rencontres consacrés à la liberté, à l'engagement et aux récits partagés dans l'Europe de la culture. Pour cette première journée, professionnels de la culture, des arts, de l'audiovisuel et des médias, mais aussi chercheurs et décideurs politiques, se sont retrouvés à la Maison des Métallos. Un temps d'échange pour croiser les regards et interroger les grands enjeux culturels européens. Aude Lavigne, journaliste spécialiste des questions culturelles, a tendu son micro à plusieurs participants.
Comment raconter et donner voix à une démocratie qui se cherche ? Dans un paysage numérique soumis aux règles des réseaux sociaux, Boris Razon, directeur éditorial d'Arte France, rappelle l'existence d'une voix pour les médias numériques qui laisse la place aux auteurs et à la diversité de l'expression culturelle et artistique.
Vous avez fait un constat lourd lors de cette table ronde sur la démocratie et les nouvelles voies qu'il fallait inventer, à savoir un constat d'échec vis-à-vis au moins d'une population qui est celle des jeunes. Les médias ont un problème d'adresse vis-à-vis des jeunes. C'est une vraie question qui se pose. Comment est-ce qu'on peut tenter sans copier les autres ? Parce que c'est ça la vraie question. On ne va pas tous devenir TikTokers.
En fait, je ne dirais pas constat d'échec. Je dirais difficulté. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans les médias et ma carrière a été très portée sur les médias numériques. Et c'est sûr que j'ai vu dans ces années une forme d'hostilité et ou d'incompréhension à l'égard de ce qui se produisait sur les différentes plateformes, dans l'univers numérique. Et cette incompréhension, elle a amené à une forme de surdité de nombreux médias. C'est pas le cas de tous. Et je pense que on n'a pas non plus perçu la dimension profondément dangereuse pour la démocratie aussi des expériences numériques et du poids de ces plateformes qui sont devenues des entités capitalistes qui affectent profondément le rapport au monde, le rapport à la réalité et le rapport aux politiques. Donc il y a une double dimension, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a une expérience qui repose sur des plateformes sociales qui conduit à un réel danger pour la démocratie et avec une, je dirais, une abdication de la part de leurs dirigeants sur l'espace démocratique même que ça pouvait représenter. Que moi, évidemment, quand le web est né, c'était un village mondial où c'était la fin, d'une certaine manière, de la verticalité, le début de l'horizontalité. Ça s'est transformé en toute autre chose sous la pression de l'économie de l'attention et d'une forme assez forcenée de capitalisme. Et de l'autre, on a des médias très profondément démocratiques qui n'ont pas écouté ce qui était en train de se produire et qui aujourd'hui les affectent parce que il leur est difficile d'accéder aux plus jeunes. Néanmoins, il y a un besoin d'information, un besoin, je dirais, aussi pour cette jeunesse, de contenu de qualité qui ne va pas disparaître comme ça. Et donc, des ponts peuvent être tissés, je crois. Des médias comme le nôtre, évidemment, Arte s'y emploie, mais beaucoup d'autres le font aussi et forcément contraints de constater l'état quelque peu inquiétant des démocraties européennes, des rapports entre les jeunes et les médias et de la défiance généralisée, et en même temps, absolument certain que dans ce moment, il y a une voie d'information, de culture démocratique possible.
Une des réponses d'Arte France, c'est peut-être la réponse qu'il convient d'avoir aujourd'hui, c'est la langue, c'est que chacun parle sa langue, pour que au moins chacun dans son groupe puisse s'entendre et sans avoir toutes les trahisons que les traductions peuvent engendrer, que ce soit d'un format à un autre, mais aussi d'un monde à un autre. Et vous avez évoqué, et c'est un chantier d'une grande ampleur sur lequel j'aimerais que vous parliez aussi un peu de concrètement ce que c'est-à-dire Arte en plus de 10 langues étrangères.
24 langues étrangères, pour être précis, 24 langues européennes, que nos contenus puissent être vus par chacun des Européens dans sa langue, sous-titrés ou doublés, mais essentiellement sous-titrés. C'est notre ambition, c'est une ambition de long terme pour les 7 à 10 ans qui viennent, mais on y va de manière délibérée. Aujourd'hui, Arte est visible dans 7 pays et dans 7 langues, et on ne va pas cesser d'augmenter le volume de langues dans lequel nous serons présents. C'est pour nous à la fois essentiel pour être vu et regardé, et aussi important parce que être européen, c'est s'adresser à tous les Européens, et donc pas seulement dans les grandes langues, dans les grands bassins de population des pays d'Europe, mais aussi partout. On y va de manière déterminée. Après, on recherche des financements, et notamment des financements européens pour cela, mais on pense qu'il y va, il en va là aussi des enjeux de représentation et de démocratie sur notre continent.
En France, Arte fait partie de notre paysage audiovisuel. Je suis française, je regarde Arte, même plateforme Arte, même Arte Radio, c'est clair. Comment Arte est perçu, mettons, en Espagne, en Italie, en Hongrie, en Allemagne, on n'en parle pas, c'est une plateforme franco-allemande, mais quel est le regard qui est porté sur Arte depuis les autres pays ?
Alors aujourd'hui, je ne saurais pas répondre précisément à cette question. Nous sommes présents en Espagne, en Italie, nos contenus rencontrent du succès dans ces pays, notamment sur YouTube. On a des chaînes YouTube dédiées notamment aux documentaires. Très souvent, ce sont des programmes qui portent sur les pays eux-mêmes qui marchent le mieux. C'est un grand classique. Et on a encore une présence, je dirais, non pas balbutiante, mais c'est un début. Je pense que la volonté que nous avons chez Arte France et tout le groupe Arte, c'est de développer fortement ces présences avec du marketing, de la communication, avec de plus en plus de contenu disponible dans leur langue, justement parce que nous pensons représenter à l'échelle de l'Europe et dans chacun des pays une forme singulière, originale, qui ne correspond pas à ce que font les médias de services publics nationaux. Et donc on peut constituer entre les différents services publics une forme de maillon, de réseau européen et être une voix créative. C'est notre ambition depuis la naissance d'Arte, très profondément originale, qui valorise les créateurs, qui leur donne la parole et qui leur donne la liberté d'agir.
Est-ce que depuis la naissance d'Arte, Arte France aujourd'hui n'atteint pas les meilleurs scores comme si elle était précisément la réponse à ce qui est demandé ?
Aujourd'hui, c'est sûr, nous vivons une croissance de nos audiences très importante, croissance sur tous les médias, j'allais dire, la chaîne linéaire elle-même progresse. Et évidemment, la croissance numérique est phénoménale. Depuis 5 ans, elle est de plus de 100%. Il y a certaines plateformes où on fait des croissances très très rapides. Arte.tv aussi bien que YouTube progresse sans arrêt, mais aussi sur TikTok, mais aussi sur Instagram. Donc oui, aujourd'hui, Arte est vu par plus de monde que jamais, en France, en Allemagne et dans les autres pays. Et nous pensons qu'effectivement, notre singularité, je dirais notre identité européenne, est la très grande proximité avec les auteurs, la très grande proximité avec les artistes, les réalisateurs, et le très grand soin que nous apportons à notre travail, qu'il soit artistique ou journalistique, est reconnu.
Et la gratuité.
Évidemment, mais ça, pour une chaîne de service public, c'est normal.
Passe-moi le relais. Un podcast produit par Relais Culture Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.relais-europe-culture.eu.